te lèvent. Et ils la retiennent, de peur qu'elle ne s'avance précipitamment, selon la variété des mœurs. Et parce que l'Ancien et le Nouveau Témoignage lui montrent la béatitude de l'héritage suprême. C'est pourquoi aussi, dans le même ciel, de nombreuses sphères lumineuses sont posées de tous côtés, sur lesquelles le même globe lumineux se déversant parfois envoie sa clarté. Parce que, dans la pureté de la foi, de nombreuses et magnifiques œuvres de piété et d'amour du Père apparaissent de tous côtés, dans lesquelles l'Église soutient un peu de temps le mépris, tandis que la splendeur de ces merveilles s'évanouit un peu, et que plongée dans la tristesse, elle admire cependant l'éclat des premières œuvres dans des hommes parfaits, et ainsi recourant au globe de feu pour y restaurer sa flamme, il la fait rayonner sur les mêmes sphères. Parce que elle-même, plongée dans le repentir et s'avançant sous la protection du Fils de Dieu, reçoit de lui le support de la divine consolation en manifestant l'amour des choses célestes par les bonnes œuvres. Lorsque la colère veut porter ses efforts vers mon tabernacle, je regarde vers la bonté de Dieu que la colère n'émeut jamais. Et ainsi, par cette aire qui fertilise de sa douce haleine l'aridité de la terre, je deviens plus douce et je jouis d'une joie toute spirituelle. Lorsque les vertus commencent à montrer en moi leur vigueur, c'est ainsi que j'éprouve la bonté de Dieu. Mais lorsque la haine veut tenter de me dénigrer, je considère la miséricorde et le martyr. Le martyr du Fils de Dieu. Et ainsi je réprime ma chair en respirant dans la fidélité du souvenir le parfum suave des roses qui naissent du milieu des épines. Et de la sorte, je reconnais mon Rédempteur. Lorsque l'orgueil superbe s'efforce d'élever en moi, sans le fondement de la pierre angulaire, le tour de sa vanité, cette tour, quand elle s'efforce de l'élever en moi et d'ériger en moi ce sommet qui prétend que nul ne l'égale en hauteur, mais veut paraître plus élevé que les autres, oh, alors, qui pourra, qui voudra me secourir? Parce que l'antique serpent qui, voulant l'emporter sur tout, se précipita dans la mort, s'efforce de me renverser. Alors je dis dans mon abattement, où est mon roi et mon Dieu? Que puis-je faire de bien sans Dieu? Rien. Et ainsi je regarde vers Dieu qui m'a donné la vie, et je cours vers la bienheureuse Vierge qui écrasa l'orgueil de l'antique serpent, et de la sorte devenue une pierre inébranlable dans la maison de Dieu. Le loup très rapace, qui a été pris au piège de la divinité, ne pourra plus désormais l'emporter sur moi. Et ainsi je connais le bien le plus doux, c'est-à-dire l'humilité, dans la contemplation de la grandeur de Dieu. Surtout par le souvenir de l'humilité de la Vierge bienheureuse, toute embaumée de ses parfums suaves, et pénétrée de la douceur divine, bruissant de délices infinis, je repousse victorieusement tous les autres vices. Ensuite, moi misérable, je vis une autre sphère. Elle brisait ses liens, se retira de sa forme avec des gémissements et dans des douleurs brisa son siège. Et elle dit, je sortirai de mon tabernacle. Mais moi, misérable, pleine de tristesse, où irai-je? Par des sentiers terribles et redoutables vers le tribunal pour y être jugé. Là, je montrerai les œuvres que j'ai accomplies dans mon tabernacle. Je recevrai là ma récompense selon mes mérites. Oh, quelle crainte, oh, quelle détresse sera la mienne. Et comme la dissolution s'opérait ainsi, Quelques esprits de lumière et de l'ombre vinrent, qui avaient été ses compagnons et les instigateurs de sa conduite pendant qu'elle était dans sa demeure, attendant sa désagrégation afin de l'emmener avec soi lorsque la mort serait venue. Et j'entendis la voix de vie qui disait qu'elle soit conduite selon ses œuvres de tel lieu à tel lieu. Et j'entendis de nouveau une voix qui me disait « La bienheureuse et ineffable Trinité s'est manifestée au monde lorsque le Père a envoyé dans le monde son Fils unique, conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge, afin que les hommes nés dans beaucoup de conditions différentes et pris dans les liens du péché soient conduits par lui dans la voie de la vérité. De telle sorte que, après avoir brisé leurs fragiles entraves corporelles, apportant avec eux leurs bonnes et saintes œuvres, ils puissent recueillir les joies du suprême héritage. » Alors aussi, il lui enjoint d'avoir égard à sa santé en lui disant « Fais en sorte de continuer cette médecine avec soin et persévérance, sans te dégoûter. » Parce que tes blessures sont graves. Il y en a beaucoup qui entreprennent avec difficulté la pénitence de leurs péchés, et bien qu'à grand-peine ils l'accomplissent cependant par crainte de la mort. Mais je leur tends la main, et je convertis en douceur cette amertume, de telle sorte que pour mon amour, ils accomplissent avec calme cette pénitence entreprise avec difficulté. Mais celui qui néglige de faire pénitence de ses péchés parce qu'il lui est difficile de châtier son corps est misérable, parce qu'il ne veut pas regarder en soi-même et chercher un médecin ni guérir ses blessures, mais il cache la pire sanie et déguise par de faux semblants la mort de peur d'être vu. C'est pourquoi il est lâche. Il est lâche pour expérimenter la pénitence sans considérer l'huile de la miséricorde, ni rechercher les consolations qui découlent de la rédemption. Il s'avance à grands pas vers la mort parce qu'il l'aime et ne recherche pas le royaume de Dieu. Courez donc, ô fidèles, dans la voie des préceptes de Dieu, de peur que la damnation de la mort ne vous saisisse. Imitez le nouvel Adam et renoncez au vieil homme. Car le royaume de Dieu est ouvert à celui qui court, mais il est fermé à celui qui est là, gisant sur terre. Malheureux sont ceux qui ont le culte de Satan et qui ignorent Dieu. Quels sont-ils? Ceux qui n'adorent pas Dieu, un dans la Trinité, ni la Trinité dans l'unité, qu'ils ne veulent pas reconnaître. Parce que quiconque veut être sauvé ne doit pas douter de la foi catholique. Comment cela? Celui qui renie le Fils n'adore pas le Père. Il n'aime pas le Fils, celui qui ignore le Père. Il n'a pas de Fils, celui qui rejette le Saint-Esprit. Il ne reçoit pas le Saint-Esprit, celui qui ne vénère pas le Père et le Fils. Il faut donc comprendre l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Oh, est-ce que tu peux vivre sans le cœur et le sang? Ainsi, ni le Père sans le Fils et le Saint-Esprit, ni le Fils sans le Père et le Saint-Esprit, ni le Saint-Esprit sans les mêmes personnes. Mais le Père a envoyé dans le monde son Fils pour la rédemption de l'homme. Et de nouveau, il l'a rappelé à lui, comme l'homme manifeste les pensées de son cœur et de nouveau les recueille en lui-même. C'est pourquoi, sur cette mission salutaire du Fils de Dieu, du Fils unique de Dieu, Isaïe, en vertu de la volonté de la suprême majesté, parle ainsi: « Le Seigneur a envoyé le Verbe dans Jacob. Il est venu en Israël. » Ce qui veut dire le Verbe par qui tout a été créé, à savoir le Fils de Dieu, qui fut toujours dans le cœur du Père selon la divinité, sans commencement de temps,
Le Seigneur l'a envoyé lui-même. C'est-à-dire que le Père éternel, par la voix des prophètes dans Jacob, annonça fidèlement que ce même Fils de Dieu devait venir dans le monde pour le salut des hommes, afin que les hommes avertis et préparés par les prophètes supplantassent prudemment le démon en déjouant avec sagesse les ruses de ses déceptions. Et ainsi, le même Verbe parut dans Israël, lorsque le Fils unique de Dieu vint dans le sein virginal, où nul homme n'avait mis son empreinte, mais qui garda la inviolable sa pureté, afin que, né d'une vierge, il ramena dans la voie véritable ceux qui ignoraient la lumière à cause de leur fatal aveuglement, et qu'il leur donna le salut éternel. C'est pourquoi quiconque possède la science par le Saint-Esprit et les ailes de la foi ne transgresse pas mon avis, mais il le reçoit pour en faire le délice de son âme. Et là, l'Église, les pieds tout sanglants, et autour de ses pieds brille une nuée resplendissante, parce que, à sa consommation, elle mit à mort le prophète des prophètes. Et elle-même déchue s'écroula. Mais dans cette consommation, la lumière de la foi resplendissante et pure surgit dans l'esprit des croyants, parce qu'au moment de la chute de la synagogue, l'Église, de l'Église ancienne, l'Église nouvelle se lève, lorsque la doctrine apostolique après la mort du Fils de Dieu se répandit dans toute la terre. Mais cette image est privée de Dieu, privée de ses yeux, et tient ses mains sous ses aisselles, parce que la synagogue, l'Église, dans l'Église de l'Ancien, ne vit pas la vraie lumière lorsqu'elle en a fini par mépriser le Fils de Dieu. L'aurore ne fait-elle pas son apparition avant le soleil? Mais l'aurore s'évanouit et la clarté du soleil demeure. Que veulent dire ces paroles? L'Ancien Testament n'est plus et la vérité de l'Évangile demeure. Car ce que les anciens observaient charnellement dans les prescriptions légales, le peuple nouveau dans le Nouveau Testament l'accomplit spirituellement. Ce que cela ont montré dans la chair, ceux-ci l'accomplissent dans l'Esprit Saint. Car la circoncision n'a pas disparu puisqu'elle est devenue baptême. Cela a été marqué dans un seul membre et ceci dans tous leurs membres. Ce qui fait que les anciens préceptes n'ont pas péri puisqu'ils ont tous été améliorés. Aussi, à la fin des temps, l'Église de l'Ancien, la synagogue, se convertira fidèlement à l'Église. Car aux synagogues, lorsque tu errais dans la multitude de tes iniquités, de telle sorte que tu te souillais avec Baal et les autres divinités semblables, délaissant les coutumes légales pour des mœurs honteuses et gisant dénudé au milieu des péchés, j'ai fait ce que dit mon serviteur Ézéchiel, j'ai étendu mon voile sur toi. J'ai couvert ta honteuse nudité, ton ignominie, et je te l'ai juré, j'ai signé un pacte avec toi. Cela veut dire que moi, Fils du Très-Haut, selon la volonté de mon Père, j'ai étendu sur toi, aux synagogues, mon incarnation pour ton salut, afin d'effacer les péchés que tu as commis dans la multitude de tes oublis. Et je t'ai assuré le remède de la rédemption en manifestant pour ton salut les voies que j'ai suivies, dans la conclusion de mon pacte. Lorsque je t'ai découvert la foi véritable par la doctrine des apôtres, afin que tu observes mes préceptes comme la femme se soumet à la puissance de son mari, j'ai écarté de toi les aspérités de la loi extérieure et je t'ai donné la suavité de la doctrine spirituelle dans la douceur du miel. Je t'ai expliqué par moi-même tous mes mystères au moyen des doctrines spirituelles. Mais tu m'as abandonné, moi le juste, pour te donner à Satan. Mais voilà, toi, ô homme, comprends, de même que la femme de Samson l'a abandonné, de telle sorte qu'il a été privé de sa lumière. Ainsi la synagogue a abandonné le Fils de Dieu, lorsque dans son obstination elle l'a méprisé et qu'elle a délaissé sa doctrine. Mais quand les cheveux de Samson eurent repoussé, c'est-à-dire lorsque l'Église de Dieu se fut fortifiée, le Fils de Dieu, par sa vertu, renversa la synagogue, déshérita ses fils, quand ils furent écrasés sous la colère de Dieu par les Kohim eux-mêmes qui ignoraient Dieu. Car elle s'était soumise elle-même à toutes les erreurs de la confusion et du schisme, et elle s'était souillée dans les prévarications de toutes sortes d'iniquités. Mais de même que David répudia enfin la femme qu'il avait épousée en première noce, et qu'il avait péché, avec un autre homme, de même le Fils de Dieu répudia la synagogue qui lui fut d'abord unie dans son incarnation, mais qui, abandonnant la grâce du baptême, suivit le démon. Cependant, vers la fin des temps, il la recevra, dès qu'elle-même, répudiant les erreurs de son infidélité, reviendra à la lumière de la vérité, parce que le démon a pris la synagogue dans son aveuglement et l'a livrée à toutes les erreurs de l'infidélité. Et il ne cessera de le faire jusqu'à la venue du Fils de perdition, qui tombera dans l'exaltation de son orgueil, comme Saul périt sur le mont Golgotha après avoir chassé David de sa terre. Ainsi le fils d'iniquité s'efforcera de chasser mon fils du milieu de ses élus, et mon fils, ayant repoussé l'Antichrist, ramènera la synagogue à la foi véritable, comme David reprit sa première épouse après la mort de Saul. Mais ceux qui sont dans la troisième légion apparaissent comme de marbre blanc dans ma vision. Ils ont une tête humaine de part des rayons ardents, et depuis les épaules jusqu'en bas, ils sont environnés d'une nuée de fer. En effet, depuis les épaules jusqu'en bas, ils sont environnés d'une nuée de fer. Ce sont les principautés. Elle signifie que ceux qui, par la grâce de Dieu, sont les princes des hommes dans le siècle, doivent revêtir l'armure forte de la justice pour ne pas tomber à cause de leur instabilité. Ils doivent regarder leur chef qui est le Christ, Fils de Dieu, et régler leur domination pour le bien des hommes, selon sa volonté, attirant sur eux dans leur amour de la vérité la grâce du Saint-Esprit, de telle sorte que, par la force de l'équité, ils persévèrent fermes et stables jusqu'à leur dernier jour. Il resplendit très dignement par les vertus d'en haut, suivant que l'œuvre des hommes fidèles prospère au nom du Christ. Elle n'a ni jambes ni pieds, parce qu'elle n'est pas parvenue à la force de sa constitution et à la suprême beauté de sa perfection. Parce que, environ le temps du Fils de perdition, l'Antichrist, qui doit inclure le monde en erreur, elle doit souffrir abondamment dans ses membres les persécutions violentes et sanglantes de sa perversité cruelle, étant conduite par les calamités de ses blessures sanglantes à l'état parfait, elle courra avec allégresse dans la céleste Jérusalem. Et de même qu'elle est devenue la nouvelle épouse bien-aimée du Fils de Dieu, dans l'effusion de son sang, elle sera introduite avec le même amour dans la plénitude de la vie, au milieu de l'allégresse de ses enfants.
Mais ensuite, tu vois des enfants noirs se trouvant près de terre dans l'air, comme les poissons dans l'eau, pénétrant dans le ventre de l'image, à travers les mailles du filet, par lesquelles elle est ouverte à ceux qui veulent rentrer. Ce qui signifie la noirceur des hommes insensés, qui ne sont pas encore lavés dans le bain du salut, mais qui, aimant les choses terrestres et les recherchant en toutes choses pour faire leur demeure dans leur instabilité, parviennent enfin à la mer de sainteté et, considérant la dignité de ses mystères, reçoivent sa bénédiction, bonne parole, par laquelle ils sont enlevés aux démons et rendus à Dieu. Se soumettant à la sacrée constitution de l'Église, par laquelle l'homme fidèle doit être béatifié pour le salut, lorsqu'ils disent en eux-mêmes « Je crois en Dieu » et les autres paroles qui concernent la foi bienheureuse. C'est pourquoi elle gémit, attirant plus haut ceux qui sortent de sa bouche, sans que son intégrité soit lésée. Car cette mère bienheureuse soupire dans son cœur lorsqu'elle consacre par le baptême, avec l'onction du Saint-Crème, dans la sanctification du Saint-Esprit, afin que l'homme, dans la vraie circoncision de l'esprit et de l'eau, soit innové, en l'élevant de cette manière à la vraie béatitude, qui est le but de toute chose, et qu'il devienne ainsi membre du Christ, lorsque, par l'invocation de la Sainte Trinité, comme par la bouche de la bienheureuse Marie, l'homme est régénéré pour le salut. Cette mère ne souffre aucune lésion, parce qu'elle doit rester pour l'éternité dans l'intégrité de sa virginité, ce qui est de foi catholique, car elle est née dans le sang de l'agneau véritable, son époux qui, sans aucune corruption de son intégrité, est née de la Vierge très pure. Ainsi, elle-même restera l'épouse immaculée que nul schisme ne pourra corrompre. Et retirant à tous leur peau noire pour les rejeter loin de la voie, elle revêt chacun d'eux de la robe d'innocence et leur découvre une splendide lumière en leur disant les paroles de bon conseil. Parce que la divine puissance qui voit les cœurs des hommes efface miséricordieusement l'infidélité de leurs crimes dans l'eau du baptême et rejette loin de la voie qui est le Christ ses péchés. Parce que la mort n'est pas dans le Christ mais la vie, par la confession sincère et par l'ablution des péchés, puisque par lui chaque fidèle est revêtu de la robe du salut et par lui la porte rayonnante de clarté du bienheureux héritage duquel le premier homme a été chassé lui est ouverte, étant averti par les paroles de la vérité de déposer sa vieille habitude de l'iniquité pour accepter en vue du salut le nouveau don de la grâce. Quelques-uns, aux yeux sereins mais aux pieds débiles, vont ça et là dans l'air devant cette image. Parce que, comme les divins préceptes leur sont connus par le regard de la réflexion, ils sont cependant hésitants lorsqu'il s'agit de les remplir. Et ils se manifestent à l'épouse du Christ, dans le cours de leur propre instabilité, comme cherchant la sagesse dans l'ombre, pensant l'avoir en leur puissance, avant qu'elles pénètrent dans leur esprit et ils n'en obtiennent aucune vertu. Mais d'autres ont des yeux faibles et des pieds fermes et cependant ils marchent débilement devant la même image parce qu'ils n'ont qu'une faible intention dans l'accomplissement des bonnes œuvres lorsqu'ils devraient avancer courageusement dans les œuvres de justice.
Mais tu vois autour de la même Vierge une grande foule d'hommes plus resplendissantes que le soleil. Ces hommes-là sont merveilleusement ornés d'or et de pierres précieuses. C'est quand au principal cœur des Vierges, embrassant d'un amour ardent la très noble virginité, et brillant tous devant Dieu d'une lumière plus éclatante que le soleil sur la terre, parce que, se méprisant eux-mêmes, ils vainquirent virilement la mort. Ce qui fait qu'ils sont ornés merveilleusement par la suprême sagesse, à cause des œuvres très belles qu'ils ont accomplies humblement pour le Christ. Parce que, se méprisant eux-mêmes et soumettant leur corps au service du Christ dans l'accomplissement des vertus, ils apaisent leurs mouvements impétueux. Dans l'austérité de leurs mœurs, resplendissent merveilleusement par leurs bons exemples sur les autres hommes. Car ils imitent même fidèlement le cœur des anges. Comment ? Dans le mépris qu'ils font des biens du siècle, parce que, comme les anges ne recherchent nullement ni ne désirent les choses de la terre, ainsi cela les imite en ce qu'ils méprisent tout ce qui est périssable. Ainsi agissent ceux qui, dans leur orgueil, se confiant en eux-mêmes, veulent paraître plus prudents que leurs anciens pères et ne pas marcher selon leurs règles, mais établissent pour eux-mêmes, dans leur grande instabilité, des lois selon leur volonté à eux. Et c'est pourquoi ils sont fréquemment agités de mouvements, de tentations diaboliques, et tombent dans le péché. Car ils s'appuient non sur le Christ, mais sur l'instabilité qui est inscrite en eux-mêmes par leur péché.